tout de suite sur Radio Saint-Fée, Petites Échappées.
Petites Échappées, ce sont des chroniques, des reportages, des enquêtes, des créations sonores.
Des formats courts, moyens ou un peu plus longs pour profiter encore plus des pépites sonores sélectionnées par l'équipe de rédaction de la radio.
Petites Échappées, tous les mercredis de 15h à 16h et en rediff le dimanche de 8h à 9h.
Espace d'espèces, une série documentaire de Lucie Combes et Aurélien Caillot.
Quelque part dans un fameux roman de Gabriel Garcia Marquez, des papillons suivent un ouvrier du nom de Mauricio Babilonia comme son ombre. C'est même parfois à la présence de ces petits lépidoptères jaunes que l'on sait que Mauricio est là. Il est l'homme aux papillons. Quelque part, entre les rails des trains, dans les friches et autres zones oubliées des gestionnaires urbains, vous pouvez voir voler des papillons. Et c'est peut-être le signe que vous êtes tout près d'un Buddleia de David, Buddleia Davidii, l'arbre à papillons, un arbre exotique qui s'est fait récemment une place dans nos paysages. Comme il est difficile de dissocier Mauricio de son ombre aux ailes jaunes, il est difficile de penser au Buddleia sans ces petits papillons qui, à la saison des fleurs, s'enivrent de leur nectar. Si d'aventure vous vous trouvez à proximité d'un terrain vague ou d'un talus de voies ferrées, vous devriez pouvoir en trouver un. Je vous le décris. C'est un arbuste aux tiges quasi quadrangulaires, autour desquelles des feuilles vertes, parfois grisâtres, poussent par deux, face à face. Les botanistes parlent de feuilles opposées. De 4 à 20 cm de long, légèrement ovales, elles ont des formes de lances. On dit d'elles qu'elles sont lancéolées et sont bordées de petites dents. On voit rarement l'arbre nu, car son feuillage est semi-caduc, une partie se maintenant en hiver. Entre mai et début octobre, des cônes formés d'une multitude de fleurs couleur lilas mesurant entre 10 et 25 cm apparaissent aux extrémités des tiges qui ploient légèrement sous leur poids. Regardez, ou imaginez. Y posant délicatement ses pattes qui d'apparence ne bousculent rien, un pan du jour, aussi appelé savamment Aglaïs Io, qui tire son nom de la légère ressemblance de ses ailes avec les plumes de l'oiseau, plonge sa trompe dans le nectar sucré d'une des fleurs avant d'enrouler ce tube creux sous sa tête, repu, et de s'envoler vers un ailleurs, se gorger ainsi de fructose, glucose, protéines, vitamines et autres substances énergétiques dont ils ont besoin pour voler. Un peu plus loin, une abeille et une mouche attaquent une autre partie de l'inflorescence avec la même délectation. D'autres papillons sont de la fête. Robert le Diable, le Moreau Sphinx, la Pierrite du Chou ou le Macaon, pour ne citer qu'eux. Et la plante a tout prévu. En plus de dégager une odeur à rendre fou le premier papillon qui passe, elle a peint le cœur de ses fleurs en orange comme on s'affuble d'un gilet de sécurité pour se rendre la plus repérable possible. Car les papillons ont une très bonne perception des couleurs. Ils voient même les ultraviolets. Mais n'allez pas croire, cet accueil est tout à fait intéressé. La plante ne fait ainsi qu'assurer sa reproduction en manipulant les insectes. Ben oui, faire de si belles fleurs lui coûte une énergie folle. Il faut que ses efforts soient récompensés. Attirés par son nectar, les papillons ne peuvent faire autrement que se mettre du pollen partout, pollen qu'ils iront ensuite disperser au gré de leur butinage. Or, si les insectes se chargent gracieusement de la pollinisation du Buddleia, il semble que leur arbre de prédilection ne soit pas aussi serviable. On peut presque parler d'arnaque. La plante les attire avec ses couleurs vives et la forte odeur de ses fleurs. Mais son nectar a peu de qualité nutritive, n'étant composé que d'environ 30% de sucre, quand certaines plantes peuvent en offrir un concentré jusqu'à 70%. L'arbre à papillons est un hôte finalement peu recommandable, car s'il offre un couvert du type junk food, il n'offre pas le gîte. Je m'explique. Avant d'exhiber leurs ailes colorées, les papillons ont été des œufs, qu'il a bien fallu pondre quelque part, puis des chenilles, qui ne manquent pas d'appétit. Or ces chenilles mangent les feuilles, tiges et fleurs des plantes indigènes. Du coin, se connaît pas le Buddleia. Une fois leur mue achevée, Les papillons qu'elles sont devenues vont puiser dans le nectar, puis pondre dans les feuilles qu'une fois chenilles, elles mangeront. Et ainsi de suite. Ce qui se passe avec le Buddleia de David est tout à fait différent. La plupart des chenilles sorties de l'œuf mourraient si elles venaient à manger ces feuilles, car celles-ci contiennent des molécules toxiques. Les papillons addicts au nectar de Buddleia ont donc besoin de pouvoir aller alentour pondre dans des plantes chenille-friendly. Or, chaque espèce de papillon a entre une et cinq espèces hôtes, pas plus. Et quand celles-ci sont rares, ben c'est pas simple. Cela dit, certaines espèces n'ont que faire de la toxicité du Buddleia. C'est le cas de la brèche, aussi appelée cuculie du bouillon blanc, qui fait partie de ce qu'on appelle les hétérocéra, les papillons de nuit. Ces belles chenilles blanches, aux motifs réguliers noirs et jaunes, peuvent vivre dans le Buddleia jusqu'à leur nymphose, c'est-à-dire avant de muer en chrysalide, stade durant lequel leur corps se transforme. Viendra ensuite leur mue imaginale, qui en fera des papillons, leur stade adulte, leur imago. En ville, on manque cruellement de papillons. La faute à la densité des zones bitumées ou bétonnées, mais aussi à la manière souvent maladroite de gérer la nature qui laisse peu de place à la biodiversité. Que l'on soit à Toulouse, Madrid, Marseille, Bruxelles ou Paris, on trouve pour partie les mêmes espèces végétales horticoles, sélectionnées principalement pour leur beauté. Peu d'essences locales y sont accueillies, et les sauvages, les spontanés, en sont généralement chassés. Difficile alors pour le tabac d'Espagne, ces grands papillons aux ailes fauves, ouvragés de lignes et de taches noires ou brunes, qui naissent généralement dans des violettes, ou pour les chenilles du pan du jour, qui naissent dans des orties, de voir le jour en ville. Cela dit, ces papillons, comme beaucoup d'autres, sont capables de se disperser à plusieurs kilomètres de leur lieu de croissance. Cela dépend bien sûr des individus et des conditions de météo. Ce qui explique sans doute qu'on les trouve au cœur des espaces urbains, alors que d'autres papillons vont rester dans des zones d'herbes fleuries, plus exigeants quant à leurs ressources, mais aussi moins mobiles. Les lépidoptères constituent le deuxième plus grand groupe d'insectes après les coléoptères. Mais les chiffres sont accablants. 66% des espèces de papillons de jour vivant en France métropolitaine ont disparu d'au moins un département qu'elles occupaient le siècle dernier. La tendance est la même sur l'ensemble du territoire européen. Sans surprise, ce sont les espaces les plus urbanisés qui sont les plus touchés. En Belgique, la première liste rouge des papillons établie en 2000 a relevé que 30% des espèces indigènes avaient disparu et que 28% étaient menacées d'extinction. Les espèces nécessitant un habitat spécifique sont celles dont les populations ont le plus diminué, quand d'autres papillons, moins exigeants, tirent leur épingle du jeu. Quant au Buddleia, c'est un arbuste commun dans les villes, et il ne cesse de se répandre dans le monde entier. Il faut dire que d'une part, il n'est pas très regardant sur son habitat. C'est une plante pionnière qui supporte particulièrement bien la pollution à l'azote et se plaît dans les sols pauvres, les milieux perturbés que sont les friches ou les décombres en tout genre. Ensuite, il aime la chaleur et le soleil, on le dit héliophile, ce qui en ville est un avantage certain. En plus, il a une capacité de dispersion colossale. Chaque arbuste peut produire 3 millions de graines, semblables à des petits raisins secs durcis, qui ont une dormance, c'est-à-dire une capacité à se mettre en sommeil en attendant des conditions favorables, de plusieurs années. Un atout de taille en milieu urbain où il n'est pas toujours facile de trouver d'endroit adéquat pour germer. Ces graines sont emmenées par le vent et l'eau, mais aussi par les trains ou les voitures, où elles se glissent ni vues ni connues. Et puis, des fois que les graines ne fonctionneraient pas, l'arbre à papillons peut toujours se multiplier grâce à ses stolons, comme les fraises. Ses propres branches s'enracinent alors et produisent de nouveaux petits arbustes. Et ce n'est pas fini. Si le Buddleia gagne si vite du terrain, c'est aussi qu'il pousse très rapidement. Et même s'il ne vit que quelques décennies, le maximum observé est 37 ans, sa multiplication inquiète la communauté scientifique et révulse certains aménageurs urbains. Les humains sont ainsi faits. Ils déplacent les plantes à travers le monde pour se faire de belles haies ou de beaux massifs, puis ils s'étonnent de voir certaines d'entre elles s'échapper des jardins pour aller vivre leur vie où le vent les sème. Et c'est exactement l'histoire du Buddleia du père David. Je vous raconte. Pour retrouver ses racines, il faut aller jusqu'en Chine, quelque part dans les montagnes, au creux d'un fourré. Sous la plume du médecin Li Shizhen, qui exerce dans la deuxième moitié du XVIe siècle, notre arbuste porte alors le nom de Zuiyukao, l'herbe enivrant les poissons, qu'elle tiendrait des pêcheurs qui avaient constaté que les fleurs et les feuilles tuaient leurs compagnons aquatiques. Le docteur en décrit les caractéristiques selon la médecine chinoise, ainsi que les périodes de récolte. Aujourd'hui encore, elle fait partie de cette pharmacopée traditionnelle. Mais ce sont les Occidentaux qui en firent, dès 1869, une plante d'ornement. Et c'est le père David, missionnaire dans l'ouest de la Chine, et qui collectait de nombreux spécimens végétaux et animaux pour le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, qui l'introduisit en Europe. C'est à l'entreprise française Villemorin que l'on doit la première mise en culture fructueuse des graines récoltées. Louis de Villemorin tenait cet échantillon de graines d'un autre missionnaire, le père Soulier, originaire de Saint-Juéry dans l'Aveyron, alors en mission au Tibet. En 1896, il les envoya au jardin botanique de Kew de Londres, l'un des plus importants au monde. Le buddleia du père David sera ensuite largement cultivé dès la première moitié du XXe siècle, devenant un classique des plantes ornementales. Oui, mais voilà. Depuis son évasion des jardins, le buddleia est considéré comme de la mauvaise herbe. Pire, en France, on l'a affublé du terrible qualificatif d'espèce exotique envahissante, EEE. Sa propagation est si efficace qu'aujourd'hui on le trouve un peu partout en Europe, jusqu'en Norvège, qu'il est installé en Nouvelle-Zélande, mais aussi dans certaines régions d'Australie. On l'accuse d'avoir un fort potentiel pour ce qui est d'impacter les équilibres naturels et la biodiversité, de prendre la place des plantes indigènes notamment. Mais on oublie souvent que le buddleia correspond, comme les autres plantes pionnières, à un stade écologique de reconquête des milieux ouverts par l'humain, et que si on laissait faire, le milieu le ferait bientôt disparaître au profit d'autres espèces. Et puis si on lui mène la vie dure, si on le traite avec des désherbants comme ça a été fait dans l'Oregon, si on l'arrache, on en coupe les inflorescences ou on le dessouche, on continue pour autant d'en garnir les jardins. Et bien que les cultivars créés soient stériles, il existe toujours un risque d'envahissement par multiplication végétative. Vous vous rappelez ? Les branches qui prennent racine. En 2008, en Nouvelle-Zélande, on a tenté de lui régler son compte en introduisant une armée de petits coléoptères, des Cleopus japonicus. Les scientifiques qui ont suivi le processus suggèrent que Cleopus pourrait faire le job au cours des premières années d'implantation du buddleia, à condition qu'on l'aide en pulvérisant de l'herbicide autour de la plante pour neutraliser les graines tombées alentour. On peut douter de la méthode et se demander si en plus Cleopus se contentera de notre arbuste. Quoi qu'on en dise, le buddleia fait désormais partie de notre flore et sa gestion est un véritable casse-tête qui illustre très bien l'embarras où on se trouve, en déséquilibre au milieu d'espèces dont l'humanité pensait, dans sa volonté de toute puissance, organiser et maîtriser les trajectoires, et qui, en fin de compte, nous échappe.
Espace d'espèces, une série documentaire de Lucie Combe et Aurélien Caillot.
Vous aimez la bière, le fromage ? Votre garde-robe est essentiellement composée de vêtements noirs, sombres ou peut-être aussi de rouge, orange ou cyan ? Vous portez un parfum fleuri et vous lavez avec des savons odorants car vos pieds exhalent une forte odeur, comme le reste de votre corps d'ailleurs. Si en plus vous êtes enceinte, alors sachez que vous êtes particulièrement attirante pour cet insecte en manque d'affection, j'ai nommé le moustique.
Bien sûr, il ne s'agit là que d'un aperçu des multiples recherches passées et en cours pour comprendre comment les moustiques nous repèrent et pourquoi ils vont plutôt vers certaines personnes que vers d'autres. Il en ressort notamment que, contrairement à ce qu'on croit souvent, la lumière les intéresse peu, que c'est surtout le CO2, notre respiration, qui leur signale notre présence, ainsi que nos odeurs corporelles. Celles-ci sont un héritage génétique, mais pas que. Elles sont aussi induites par la présence de certaines bactéries à la surface de notre peau. Qui boit de la bière et mange certains fromages, accueille leurs ferments, responsables de ces odeurs si attractives pour les moustiques. Grâce à leurs antennes pourvues de soie, ces petits insectes n'en ratent pas une miette. Vous avez beau feindre le calme, vous les sentez tapis dans l'ombre et regrettez déjà le demi que vous venez de boire. Et vous avez bien raison, car ils sont capables de capter vos odeurs jusqu'à plusieurs dizaines de mètres à la ronde. La suite logique, vous la connaissez. Ils viendront percer votre peau avec leur trompe, appelée doctement proboscis, jusqu'à atteindre un de vos vaisseaux sanguins. Cette trompe est composée de deux canaux. Par l'un, le moustique envoie sa salive à la fois anesthésiante, pour que vous ne sentiez rien et qu'il puisse se gorger de votre sang tranquille, et anticoagulante, pour pouvoir aspirer par l'autre canal un sang fluide, comme on sirote un jus avec une paille. La piqûre ne nous fait donc pas de mal en soi, le moustique n'injectant aucun venin. Les démangeaisons que nous ressentons viennent de notre système immunitaire qui se met en alerte parce qu'un liquide étranger vient de le pénétrer. Cette réaction va parfois jusqu'à l'allergie. Attention, si une grande partie des espèces de moustiques consomment du sang, seule une minorité de ces hématophages prélève celui des humains. Et au cas où vous l'ignoriez, seules les femelles piquent. Les mâles sont végétariens. Ils se satisferont du nectar des fleurs et du suc sucré contenu dans les plaies des arbres ou les matières organiques. Les femelles, elles, ont besoin de sang car il contient notamment les protéines nécessaires à la formation de leurs œufs. Alors, à peine fécondées, elles partent planter leur proboscis, nous prélèvent quelques gouttes de sang et après avoir digéré, vont pondre leurs œufs à la surface de l'eau sous la forme d'un petit radeau blanc. Chacun de ces radeaux est composé d'environ 100 à 200 œufs en fonction des espèces et une femelle peut pondre de 1 à 4 fois dans sa vie, qui ne dure pas plus de quelques semaines. Notez que les mâles, eux, vivent seulement quelques jours le temps de la fécondation. À moins que... Des espèces de moustiques, on en connaît environ 3500 dans le monde. Seules 65 sont présentes en France. Celui qu'on rencontre le plus souvent chez nous, notamment à Toulouse, s'appelle Culex pipiens, le moustique commun. Culex, aiguillon en latin, tu m'étonnes. On le reconnaît parce qu'il a le corps brun et les ailes transparentes quand le célèbre moustique tigre Aedes albopictus, généralement plus petit, arbore des rayures noires et blanches, d'où son nom. Mais surtout, il est plutôt actif la nuit, quand le moustique tigre est actif en journée, principalement le matin et à la tombée du jour. Et c'est lui qu'on entend. Le tigre est trop lent pour faire du bruit. Le vrombissement aigu qui nous remplit les oreilles est en effet produit par les vibrations ultra-rapides des ailes qui battent entre 600 et 2000 fois par seconde, ce qui est considérable pour un insecte de cette taille. Le moustique doit ce record à l'utilisation d'un mécanisme de vol jamais vu ailleurs, mais trop technique pour qu'on s'y attarde ici. Notez plutôt que ce vrombissement lui est bien utile, car il sert aux deux partenaires à se retrouver pour se reproduire. Des chercheurs de l'université Cornell à New York ont montré que chez Aedes aegypti, présent en France uniquement à Mayotte, aux Antilles et en Guyane, mâles et femelles modulent la fréquence de leur battement d'ailes jusqu'à trouver l'harmonie nécessaire à leur accouplement. Mais au-delà du désagrément auditif et cutané, les moustiques sont craints pour être vecteurs de nombreuses maladies et seraient responsables de la mort d'environ 700 000 personnes par an dans le monde. C'est par leur salive qu'ils peuvent transmettre des maladies. Bien sûr, tous ne sont pas des criminels en puissance. En France, l'inquiétude porte sur le moustique tigre, car il peut être vecteur des virus Zika, du chikungunya et de la dengue. En janvier 2023, des moustiques tigres étaient présents dans 71 départements métropolitains. Ailleurs, d'autres transmettent aussi, entre autres, la fièvre jaune, l'encéphalite japonaise, mais aussi des maladies parasitaires comme le paludisme. Il est ici intéressant de souligner que les humains, s'il se passerait bien d'être piqués et contaminés, ne sont pas tout à fait étrangers au destin de ces insectes volants. Dès le néolithique, on a cherché à domestiquer le vivant par l'agriculture et l'élevage. Puis au fil du temps, on a intensifié la transformation des paysages et avec eux, des écosystèmes. Cette dynamique a généré des rapprochements entre des espèces qui vivaient jusque-là chacune de leur côté, et de nouvelles relations se sont créées, certaines dangereuses pour ce qui est de la transmission des maladies, au bétail comme à l'humain. Nos activités ont ainsi accompagné l'évolution des populations de moustiques. En 1863, des moustiques londoniens, initialement amateurs de sang d'oiseaux et qui présentaient une période d'hibernation...
Oui, parce qu'on se demande souvent ce que font les moustiques en hiver. Eh bien certains, comme Culex pipiens, hibernent dans des grottes, des greniers, des troncs. Mais d'autres espèces passent aussi la période de froid à l'état de larves et même d'œufs, mettent en pause leur système vital jusqu'aux prochaines chaleurs. Ce qu'on appelle la diapause, comme chez les odonates. Fin de la parenthèse.
En 1863, donc, ces moustiques sont tranquilles en hibernation dans les cavités du métro londonien, alors en construction. Au printemps, à leur réveil, piégés dans les galeries, certains se mettent à piquer non pas des oiseaux, mais ce qu'ils ont sous le proboscis. Rats, souris et humains. Ils ont d'ailleurs largement profité des bombardements nazis pour attaquer les réfugiés en sous-sol. Cette évolution a donné une nouvelle espèce, désormais bien distincte de celle de surface, et qui, elle, n'hiberne pas. Mais sans même parler de nouvelles espèces, l'intensification des échanges planétaires produit des mouvements de population chez les moustiques, embarqués dans nos véhicules, ou dont les œufs ou les larves sont trimballés avec des marchandises et finissent leur développement loin de leur lieu de naissance. C'est ainsi qu'Hawaï, qui n'en avait pas, en vit débarquer en 1826, avec les navires européens. Pas de chance, fin 19e, début 20e, certains portaient le paludisme aviaire qui tua une grande partie des oiseaux endémiques de l'archipel. Quant à Aedes albopictus, le fameux tigre, venu d'Asie, il est arrivé en France dans les années 2000 via des pneus usagés. Sinon, il serait resté tranquille, car il ne vole jamais bien loin qu'à quelques centaines de mètres du point d'eau où il est né. En revanche, c'est une espèce qu'on dit très adaptative, c'est-à-dire qu'elle s'acclimate facilement et peut piquer tant les humains que les animaux. Les femelles peuvent hiberner, et leurs œufs et larves sont particulièrement résistants aux grandes chaleurs comme au grand froid. Avec le réchauffement climatique, la température des eaux augmente, ce qui accélère le développement des œufs et des larves. Les moustiques se plaisent en ville. Les sols et matériaux imperméables sont propices aux eaux stagnantes, vides sanitaires, soucoupes de pots de fleurs, bouches d'égouts, caniveaux. Et alors un stock de sang frais, je ne vous dis pas. D'autant qu'il n'y a pas beaucoup de prédateurs. Les populations d'hirondelles baissent, celles des chauves-souris ne sont pas non plus au top, et les batraciens en ville, bof. Sauf que quand les moustiques deviennent trop nombreux, on a tendance à ne plus les supporter. On les considère comme une nuisance. Alors, cela fait des années que l'on tente par tous les moyens d'éradiquer ces insectes qui ont survécu à bien des épreuves au cours de leurs 70 millions d'années sur Terre. Assèchement des marais, drainage, mais aussi pulvérisation d'insecticides. Le DDT, par exemple.
Dichlorodiphényltrichloroéthane,
créé à la fin du 19e, devient l'insecticide le plus utilisé à partir de la Seconde Guerre mondiale. En 1948, le prix Nobel de médecine est même attribué à Paul Hermann Müller pour, je cite, « sa découverte de la grande efficacité du DDT comme poison contre plusieurs arthropodes », un ensemble d'espèces dont font partie les moustiques. Le produit est interdit dans pas mal de pays dès les années 70, après la découverte des dégâts qu'il occasionne sur notre santé et sur l'environnement, même si certains l'utilisent encore car il est efficace et peu coûteux. À la fin des années 70, on développe le BTI, une arme bactériologique qui s'attaquerait spécifiquement aux larves des moustiques et a priori qu'à elles et à des mouches noires. Mais bon, il convient de noter que dans ces luttes insecticides, dès qu'on arrête de traiter, les moustiques reviennent. Et puis, l'évolution nous met souvent des bâtons dans les roues, car ces petits insectes deviennent résistants à certains produits. Alors les apprentis sorciers jouent des jeux d'équilibre entre zones traitées et non traitées pour assurer un mélange génétique et éviter que tous les individus mutent en moustiques résistants. D'autres préconisent la manipulation de leur génome. Au Brésil, pour lutter contre la dengue, on a lâché des mâles stériles et on envisage désormais de faire des élevages de moustiques infectés d'une bactérie qui empêche de transmettre la dengue aux humains. En se reproduisant, les mutants infectent à leur tour les moustiques sauvages et réduisent ainsi la propagation du virus. Mais ça ne suffit pas. Dans une tribune au New York Times, la biologiste Olivia Judson a, elle, proposé de perpétrer un spécicide pour se débarrasser de 30 espèces vectrices de maladies graves ou mortelles. « Nul n'est irremplaçable », argumente-t-elle. Mais quelles espèces prendraient leur place ? Rappelons quand même que les moustiques constituent la nourriture de pas mal d'espèces déjà fragilisées. Mais aussi, et on le sait moins, qu'ils sont des pollinisateurs, et que dans les régions arctiques, ils sont même indispensables aux plantes et aux fleurs. Enfin, leurs larves filtrent l'eau et contribuent à produire de la matière organique. Si le risque sanitaire est réel, les risques écologiques le sont aussi, et l'expérience semble montrer qu'avec le second vient souvent le premier. De nombreux scientifiques appellent donc à réguler les populations par des mesures de prévention sur les eaux stagnantes et l'usage de moustiquaires notamment. Affaire à suivre.
Espace d'espèces.
Petites échappées, tous les mercredis de 15h à 16h et en rediff le dimanche de 8h à 9h.